Le Grand Hebdo, une émission présentée par Bérénice Deville et Paul Meyer sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Territoria, l'émission dans laquelle nous recevons des acteurs des territoires avec lesquels nous décryptons l'actualité économique, sociale, politique, environnementale. Pour animer cette émission, je suis accompagnée de Paul Meyer. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Très bien.
En pleine forme ?
Parfait.
Aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux besoin qu'ont de plus en plus d'entreprises de trouver un sens, une raison d'être, une mission, devenir, être une entreprise à impact positif. Alors, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou une impérieuse nécessité? C'est notamment ce dont nous allons discuter avec nos experts et nos invités tout au long de cette émission. Alors, autour de ce plateau, justement, Antoine Brachet, notre chroniqueur, bonjour.
Bonjour Bernice, bonjour Paul.
Directeur associé de Blueneuf.
Tout à fait.
Et nos invités, donc à ma gauche, Bérangère Priour, bonjour.
Bonjour.
Directrice d'études et nouveaux développements d'Harmonie Mutuelle Groupe Vive.
Exactement.
Et Arthur Tou, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la communication en interne et réglementaire chez Veolia. Nous allons donc parler de la raison d'être des entreprises. L'Hebdo Territoria, c'est maintenant.
Le Grand Hebdo sur Radio Territoria.
Alors, la raison d'être des entreprises, l'environnement, la responsabilité sociale et environnementale, on en parle partout, c'est la grande mode. On va déjà faire une piqûre de rappel avec vous, Antoine Brachet, de la loi Pacte justement, et de ce volet, l'objectif de rendre l'entreprise plus juste et plus responsable au niveau social et environnemental.
Exactement. Écoutez, je vous invite à un petit voyage dans le temps pour revenir en arrière et resituer le contexte. Tout a commencé sur la manière dont percevait l'entreprise jusqu'à présent. Si on se souvient, on est en 1970, on a Milton Friedman qui fait un article dans le Financial Times et il dit que la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est d'accroître ses profits. Donc ça, c'est le point de départ. Si on avance un peu dans le temps, on se retrouve en mars 2018, on est en France et on a la publication d'un rapport par Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard. Et ce rapport a pour titre l'entreprise, l'objet est l'objet d'un intérêt collectif. C'est finalement ce rapport qui lance la conversation autour de ce qui deviendra la loi Pacte. La loi Pacte, elle arrive, elle, en mars 2019. La loi Pacte, ça veut dire très concrètement un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette loi Pacte? Excusez-moi. Elle fait rentrer la raison d'être dans le code civil. Qu'est-ce que la raison d'être ? La raison d'être, c'est l'expression d'un objectif d'intérêt général qui outrepasse la simple recherche du profit. Donc, voyez, par rapport à l'historique que j'évoquais auprès de Milton Friedman, on est en train de se dire que l'entreprise doit dépasser son rôle initial, celui qui lui était assigné, et peut-être se préoccuper un peu plus d'intérêt général, ce qui évidemment va poser d'autres questions sur le détail desquelles on rentrera peut-être.
Et alors, qu'est-ce qu'une entreprise à mission ?
Alors, l'entreprise à mission, on est dans le cadre aussi de la loi Pacte. C'est un cran plus contraignant que la question de la raison d'être. C'est trois choses. C'est la définition d'une mission sociale et ou environnementale précise. C'est le fait d'imaginer associer à cette mission des objectifs chiffrés. Et c'est également mettre en place une procédure de suivi de l'atteinte de ces objectifs par un organisme indépendant.
Donc c'est un statut en fait qui est beaucoup plus compliqué, complexe à obtenir.
Exactement. Si tout ne l'ont pas, et je pense qu'on y reviendra derrière, c'est que qui dit statut dit choses qui sont imposées. On verra que dans les organisations, pour que les choses avancent, peut-être qu'il est utile et important de consulter l'ensemble des collaborateurs ou des parties prenantes pour justement faire avancer la réflexion et définir ensemble la mission. Voilà.
Vous parlez de réflexion, trouver un sens commun, trouver du sens, trouver une mission, révéler une raison d'être. C'est du gadget ou il y a vraiment une nécessité urgente ?
Alors pour moi, c'est une nécessité et c'est une urgence. Quand on a commencé à travailler sur ces sujets, assez rapidement, on a abouti à une phrase, nous chez Blueneuf, qui est du pacte aux actes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est exactement comme il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est une fois qu'on a dit les mots, comment est-ce qu'on fait pour s'engager et aller dans cette direction? On est aujourd'hui en 2022. La plupart des auditeurs l'ont peut-être entendu. Le dernier rapport du GIEC indique que nous avons 3 ans désormais. Le compte à rebours est lancé pour inventer un futur résilient et désirable. Et selon moi, ça veut dire que nous sommes à un carrefour. Le carrefour, c'est quelle direction on choisit? Alors, c'est à chacun de se positionner. Il y a certains qui sont arrêtés, tétanisés. On sait que, par exemple, il y a de plus en plus de signaux indiquant que les jeunes de moins de 30 ans se posent la question d'avoir ou non un projet d'enfant. Et c'est bien un signe de foi en l'avenir. Certains sont peut-être dans le déni, d'autres dans la colère. Et puis aussi, certains qui se disent on a envie d'agir, mais on ne sait pas comment faire. De mon point de vue, on doit faire un pari. Et le pari, pour moi, c'est le pari de l'optimisme de combat. L'optimisme de combat, c'est de se dire, soit on considère que rien n'est à faire, auquel cas on s'arrête, soit on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Et dans cet optimisme de combat, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du passage à l'action. C'est un mot important, je pense, autour duquel on reviendra. Et c'est le cas, effectivement, dans la plupart des grandes entreprises. Alors, il y a plein d'idées possibles, hein, plein de possibilités pour passer à l'action.
Oui, c'est assez vaste.
C'est assez vaste. On peut dire que, on en parlera sans doute avec Arthur, on peut travailler en multipartie prenante. Il y a la question de la question des indicateurs de suivi de performance. On l'évoquait sur la question de l'entreprise à mission, la question d'embarquement des collaborateurs. Plein de pistes, de modalités sur la manière dont on peut s'organiser.
Qui se résume un peu en 3 volets, hein. Il y a le bien-être des collaborateurs. Oui. Ce qu'on peut faire pour la société et pour la planète.
Exactement. Derrière tous ces mots qu'on est en train d'utiliser, se cache un autre mot qui est effectivement la responsabilité sociale de l'entreprise, et c'est ça se décline dans les 3 volets que vous venez de citer.
Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe finalement ? On est dans une période où on l'a vu en pleine séquence électorale, où les citoyens se désinvestissent de l'engagement politique, des associations, des syndicats. Donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe absolu finalement ? Alors que là où on ne s'engageait pas hier, c'est-à-dire dans l'entreprise, finalement, ben, on y trouve une nécessité d'engagement, on le développera tout à l'heure, alors que dans les lieux où se faisait l'engagement, la politisation, la conscientisation traditionnellement, on voit une grande déperdition. Antoine, comment vous pouvez expliquer ça, vous qui êtes notre spécialiste démocratie à Radio Territoria, vous avez une vision globale de ces enjeux ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de paradoxe, je pense qu'il y a une crise d'adolescence. C'est qu'on est en train de se dire qu'il faut changer les choses, mais juste, on ne sait pas exactement comment faire.
Une crise d'adolescence des Français ?
Visible notamment en France, je pense plus largement à l'international, mais la préoccupons-nous déjà de la France. En tout cas, elle est visible ici. Cette crise d'adolescence, elle consiste à se dire, et je reviens à mes propos antérieurs, jusqu'à présent, on se disait que chacun son ses objets et les moutons seront bien gardés. Donc il y a l'État se préoccupe d'intérêt général, les entreprises se préoccupent de faire donc du profit, etc., etc. Et puis il y avait, ça a été évoqué, vous l'évoquiez Paul, la question des corps intermédiaires, de l'engagement, y compris associatif. Aujourd'hui, pour moi, la crise, elle vient du fait que on est tellement conscient de l'ampleur des enjeux qu'on doit adresser, que d'abord, on se sent effectivement un peu tétanisé, comment s'engager, comment participer à l'action, et d'autre part, il peut y avoir aussi une décrédibilisation de la manière dont l'action est organisée aujourd'hui, à la fois des pouvoirs publics ou des entreprises. Pour moi, la réponse, mais c'est pour ça que je parlais de crise d'adolescence, tout n'est pas encore totalement abouti, ça flotte encore un peu, on pourrait dire. On est juste en train de se dire collectivement que compte tenu de la nature des enjeux, à la fois ça veut dire que tout le monde doit être contributeur justement à la réponse à ces enjeux-là, d'où l'émergence en cours d'un certain nombre de notions comme celle de coalition.
Ça veut dire que tout le monde joue le jeu.
Tout le monde doit jouer le jeu. J'évoquais le compte à rebours 3 ans, si on joue pas tous le jeu ensemble, on n'y arrivera pas. Et puis ensuite, si on dit qu'on joue tous le jeu ensemble, ça pose une autre petite question. Alors pardon, c'est un peu plus technique, c'est dans la cuisine, mais c'est la question de la gouvernance de la résolution de ces enjeux. Comment est-ce qu'on s'organise ? La gouvernance, c'est un gros mot pour dire comment est-ce qu'on travaille ensemble ? Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour atteindre ces objectifs ?
Alors justement, on va en parler dans quelques instants. Juste, vous, donc vous êtes directeur associé de Blue Nov. Vous faites de l'accompagnement en fait d'entreprises. Justement, vous proposez aux entreprises de les accompagner pour révéler leur raison d'être, pour devenir, on le verra plus tard, des entreprises à mission. Comment, brièvement, vous les accompagnez ?
Alors, pour situer ce qu'on fait, nous, il y a une phrase que j'aime bien, qui est d'un philosophe américain qui s'appelle John Dewey, qui dit que la démocratie, elle commence par la conversation. Nous, ce en quoi on croit, nos convictions chez Blue Nov, c'est que si on arrive à mettre en place des mécaniques qui permettent à chacun de se sentir accueilli dans l'expression de ce qu'il a à dire à un moment donné, alors il va se passer quelque chose de beau, puisque tout le monde est accueilli. Ça, ça s'appelle l'intelligence collective. On croit à la capacité de chacun à dire quelque chose d'important. Ensuite, nous, la manière dont on accompagne derrière, c'est on met en place des dispositifs, des mécaniques qui permettent de créer le cadre dans lequel chacun va bien pouvoir s'exprimer. Donc, on va mettre en place un salon de conversation. On est au salon, les gens vont pouvoir parler les uns avec les autres, soit comme on est en train de le faire dans une pièce, soit peut-être, et on a des logiciels associés en s'exprimant sur certains sujets, en répondant à des questions, en participant à un forum, en écrivant peut-être des fictions, des imaginations de ce que pourrait être l'avenir. Et nous, derrière, ça c'est le salon, on va pouvoir analyser, donc on est dans la cuisine, on va récupérer tout ce qui est dit pour essayer d'identifier, c'est comme un grand trésor, et on va essayer d'identifier des pépites au sein de ce trésor, ce que les gens disent, ce qu'il y a d'important, et ce que ça préfigure de ce qu'il faudrait faire. L'important derrière, c'est deux choses, et je termine là-dessus. Un, c'est que c'est collaboratif, tout le monde a la voix au chapitre, ce n'est pas plus seulement genre un certain nombre de personnes qui seraient les plus capées, par exemple, qui participeraient à la conversation. Non, c'est tout le monde, y compris les opérationnels, y compris les parties prenantes externes. La deuxième chose importante à retenir, c'est à quoi est-ce que ça s'applique. Et effectivement, chez Blueneuve, on travaille sur un certain nombre de sujets, il y en a quatre, on y reviendra peut-être. Dans le cas d'espèce, c'est le sujet qu'on appelle du pacte aux actes, et la question, c'est le sujet de fond, c'est la méthodologie que je viens d'évoquer, à quoi on la consacre. On la consacre à aider les organisations qu'on accompagne à passer de « voilà comment je fonctionnais auparavant » à, et vous le disiez, j'aime le terme, je révèle avec les collaborateurs ou les parties prenantes ma raison d'être, et peut-être aller encore un cran plus loin, qui sont pourquoi pas aller vers un statut, entreprise à mission, mais pas que, ça peut être aussi comment est-ce que ça se traduit dans les faits, en plan d'action. Un plan d'action dans une entreprise, c'est simple, ça s'appelle un plan stratégique. Donc on essaie de mailler les mots, la raison d'être, et les actes, le plan stratégique qui engage l'entreprise dans une direction donnée.
Alors justement, on voulait illustrer un petit peu toutes ces questions. On vous a demandé, Antoine, de regarder un peu dans le paysage des nombreuses entreprises qui s'engagent aujourd'hui sur le sujet, et bien des entreprises un petit peu emblématiques et qui étaient finalement complémentaires dans leur approche et dans leur manière de faire, dans leur métier aussi, pour illustrer de manière un peu plus concrète finalement ces démarches de raison d'être et cette ambition de passer justement du pacte aux actes. Et donc vous avez bien voulu procéder à un casting et nous présenter, nous révéler justement des acteurs qui incarnent bien cette dynamique, me semble-t-il, c'est ça ?
Tout à fait, nous allons donc parler avec deux entreprises que vous avez accompagnées avec Blueneuve. Il s'agit donc d'Harmonie Mutuelle et de Veolia.
Le Grand Hebdo sur Radio Territoria.
Bérangère Priour est avec nous, donc d'Harmonie Mutuelle, et Arthur Thou de Veolia. Peut-être une première question pour Bérangère. Alors, Harmonie Mutuelle est devenue depuis un an une entreprise à mission.
Exactement. On est devenu même une entreprise mutualiste à mission. Donc, on a un peu personnalisé ce statut un peu général de la loi Pacte en montrant par là qu'on était d'abord une entreprise avec un projet social et entrepreneurial, une responsabilité employeur, mais qu'on était toujours une mutuelle et qu'on se donnait du coup justement une mission qui dépassait notre seul statut de mutuelle. Voilà pourquoi, comment on est devenu une entreprise mutualiste à mission.
Et alors, pourquoi devenir une entreprise à mission, en fait ? Quel est le but ?
Oui, exactement, on peut se poser la question. Et en fait, c'est la question qu'on s'est posée tout simplement. Véritablement, c'était celle-là. Les dirigeants se sont dit, mais pourquoi devenir une entreprise à mission ? Et comme les dirigeants d'Harmonie Mutuelle, notamment le président, il est élu par le conseil d'administration, qui est lui-même élu par l'Assemblée Générale, ils se sont retournés vers leurs instances, vers la gouvernance, pour poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a cette loi Pacte qui est arrivée, qui est venue un peu percuter notre ADN justement social, hein, parce que moi je rappelle, on est une mutuelle, et en fait, au-delà de notre activité d'assurance, on a une dimension sociale. En gros, de faire de l'action sociale et de la prévention, par exemple. Donc on avait déjà une mission sociale, donc ça nous a vraiment un peu percuté. Et donc on est allé devant notre gouvernance en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait rien ? Parce qu'on considère qu'on est déjà vertueux, on est déjà dans le scope, ok, tout va bien, business as usual. Est-ce qu'on se donne une raison d'être ? Pour être un peu dans la course, on va dire, où est-ce qu'on va au cran le plus élevé sur l'entreprise à mission, et on a choisi ça parce que, Antoine, tu le disais très bien, parce que c'est ce qui est le plus engageant, et c'est ça qu'on voulait obtenir, hein, pas juste de la com, mais de l'engagement, et parce que aussi on s'est très vite aperçu que aller travailler sur le sens, la mission, l'utilité sociale, ça allait nous amener à avoir une réflexion stratégique au plus haut niveau et avec l'ensemble de nos parties constituantes. Et c'est ça, je crois, qui nous a vraiment motivés.
Et alors, justement, c'est comment on passe, une fois que c'est défini, une fois qu'on a, on a décidé de devenir une entreprise à mission? Bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est complexe, c'est fastidieux, c'est comment ça se passe? Comment on passe du concept au réel? On se fait accompagner, du coup, par Bluenav, pour vous?
Exactement, pas que. En fait, d'abord, c'est un temps qui est un temps d'un projet. Au départ, c'est un projet. On est en devenir, donc on, voilà, on met une structure projet. Nous, on a mis 18 mois à peu près, en fait. Entre le moment où les dirigeants demandent à leur conseil d'administration est-ce qu'on y va ou pas, et le moment où on l'est devenu, en juillet 2021, ça fait à peu près 18 mois.
Ce qui est plutôt rapide ou plutôt...
Ouais, moi qui ai conduit le projet, j'ai trouvé ça rapide, ouais, effectivement. En fait, ça a été rapide surtout au moment où l'Assemblée Générale en 2020, en juillet 2020, nous a dit « Ok, on est d'accord, on devient une entreprise à mission » et après, on n'a mis qu'un an, quoi. Donc, c'était assez rapide. Et donc, c'est la mise en place de toute une mécanique de projet et d'embarquement de toutes les parties prenantes qui se met en place. Et effectivement, on a choisi un accompagnement double, en fait. Un accompagnement sur comment nous aider à travailler sur cette raison d'être, sur nos objectifs. Et on a pris un cabinet qui était plus développement durable pour nous décentrer. On n'a pas pris des spécialistes de la stratégie d'assurance. On a pris un autre cabinet qui s'appelle Inextinction Développement Durable. Et puis, on avait envie d'aller vraiment chercher le maximum de participation, de contribution. Et c'est pour ça qu'on a fait appel, effectivement, à Bluenav. Moi, j'étais très intéressée par le sujet des civic tech, parce que la démocratie d'entreprise, c'est quelque chose qui me passionne. Et voilà, on s'est assez bien trouvé avec Bluenav.
Juste, en général, une démarche, le timing, on va dire, moyen pour des entités, en général, c'est plutôt des groupes, hein, ou des entreprises assez importantes qui se lancent dans ces démarches. On estime à combien de temps en moyenne? On a une idée?
La moyenne est complexe parce que ça peut être des projets qui durent quelques mois jusqu'à 2-3 ans.
Ok, d'accord.
En revanche, ce que je trouve intéressant dans ce que disait Bérangère, c'est moi ce que j'ai constaté, c'est si on voyait sous nos yeux une courbe mathématique, c'est un peu une courbe exponentielle. C'est que souvent, ça met un peu du temps à démarrer. Il y a beaucoup de discussions, de réflexions pendant un certain temps, et à un moment qui peut se passer au bout de 6 mois, 9 mois, 12 mois, etc. Il y a un point d'inflexion et les choses s'accélèrent. Parce qu'en fait, effectivement, le simple fait d'avoir lancé la réflexion de manière collective imprime au sein d'une organisation, engage un certain nombre de personnes qui disent « Ok, donc maintenant, on commence à passer à quelque chose de différent. » C'est ce point d'inflexion qui me semble intéressant à situer.
Donc ça, c'était pour Harmonie Mutuelle, donc entreprise à mission désormais. Chez Veolia, on a révélé sa raison d'être. Arthur.
Tout à fait. Alors chez Veolia, on a une approche un tout petit peu différente. On a déjà notre président Antoine Frérot qui, lui, est dans la conviction, tu parlais Antoine de Friedman tout à l'heure, que cette vision du capitalisme, elle n'est pas soutenable pour l'entreprise.
Depuis un moment déjà, il a cette conviction.
Depuis un long moment. Il était assez pionnier d'ailleurs au départ sur cette démarche. Il l'a porté avec Veolia, avec l'Institut de l'entreprise aussi. Mais sa conviction était que si une entreprise se dit « je dois juste servir mes actionnaires, faire du profit et on espère que ça va ruisseler derrière », ça ne va pas fonctionner et l'entreprise va être remise en cause par ses parties prenantes. Et au contraire, sa vision est que l'entreprise appartient à l'ensemble de ses parties prenantes, ses actionnaires, bien sûr, mais toutes les autres parties prenantes, et que c'est en cherchant à être utile à l'ensemble de ses parties prenantes qu'elle sera soutenue, qu'elle pourra avancer et qu'elle pourra délivrer ce qu'elle a à délivrer et, in fine, faire des profits. On est toujours une entreprise, on parle bien du point de vue de l'entreprise, mais on a cette petite phrase, être utile pour être prospère et pas l'inverse. Et ça, c'est vrai que ça change quand même la donne.
Mais vous y tenez beaucoup à cette chronologie, l'un et l'autre, l'une et l'autre, parce que c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un boom. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent s'engager, qui vont sur la RSE, la raison d'être, la mission. Ça devient un petit peu, ça se généralise. En tout cas, ça se massifie après le Covid. Vous, ça fait un moment que vous êtes sur ces orientations. Elles viennent de loin. Alors, du côté d'Harmonie Mutuelle, vous faites partie de la grande histoire de la mutualité française. Et vous le disiez, ça porte un sens naturellement. Chez Veolia, vous êtes désengagé depuis toujours sur les questions d'environnement au quotidien et avec une vision durable. Mais néanmoins, ces démarches, vous avez voulu les initier assez tôt et bien avant cette crise Covid, ces interrogations, etc. Mais est-ce que ces dynamiques n'ont pas été renforcées parce qu'elles permettent aussi peut-être de mieux s'interroger sur son entreprise, son sens, mais aussi sur ses résistances? On parle beaucoup du mot résilience à la suite du Covid. Donc, est-ce que vous avez aussi vous qui avez décidé tôt de ces démarches, intégrer ce besoin et est-ce que vous pouvez apporter cette démarche comme à côté ?
Alors, je pense qu'effectivement, les contextes sont finalement des accélérateurs de cette démarche. La loi Pacte, en soi, a quand même été un moment où ça a permis d'atterrir des choses. Il y avait des convictions, il y avait déjà une culture, mais c'est un moment où on a fait le texte de notre raison d'être, où on s'est dit qu'un texte, évidemment, c'était pas suffisant.
Parce qu'à l'époque, c'était encore conceptuel, Antoine Frérot.
Ça s'exprimait ailleurs.
Et comment il avait été perçu juste à l'époque ? Parce que dire qu'une entreprise a profit, voilà, c'est va droit dans le mur, en fait. Comment il a été perçu à l'époque ? Parce qu'à l'époque, c'était ça, pour une entreprise, faire du profit, et c'est tout.
Alors, j'étais pas là à l'époque, mais évidemment, je pense qu'au départ, il était un peu différent de ses camarades autour de lui et que petit à petit, l'ensemble de la société est arrivé sur cette vision-là. Et c'est un point très important d'ailleurs de l'accélération et de ce qui permet de rendre les choses possibles, c'est qu'avoir des convictions tout seul et être en contre, bah, malheureusement, ça permet pas de rentrer dans une mise en œuvre opérationnelle. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a toujours cette vision extrêmement forte, on la consolide, on y reviendra peut-être dans un texte, dans ce qu'on appelle chez nous une performance plurielle. Mais tout l'intérêt, c'est comment est-ce que ça va aller rencontrer l'ensemble des parties prenantes qui sont avec nous et comment est-ce qu'on arrive à prendre ça en main
ensemble, à embarquer tout le monde en fait.
Pour agir et pour créer des voies de passage et certainement pas des oppositions.
Parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, voyez, est-ce qu'on n'est pas un peu au sommet de la pyramide de Maslow, hein, voyez, c'est-à-dire que voilà, une fois que l'entreprise est rentable, qu'elle est sécurisée, qu'elle est installée, est-ce qu'il n'y a pas un supplément d'âme qu'on va chercher finalement? Et du coup, est-ce que la démarche n'est pas accessoire ou, enfin voilà. Et c'est pour ça que je pose la question de savoir si elle a aussi des avantages concrets, directs, parce que il y a cette image qui, à mon avis, est indispensable lorsqu'on a les valeurs de la mutualité, lorsqu'on est aussi répondant, par exemple, à des marchés publics, à des appels d'offres notamment. Donc, il y a aussi une nécessité où on est uniquement sur voilà, ce sommet de la pyramide de Maslow, ce supplément d'âme et de sens.
Je pense qu'on peut répondre, Arthur et moi, et nos réponses seront certainement convergentes, mais différentes, c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense pas qu'on soit au sommet de la pyramide avec l'entreprise à mission, parce que pour nous, cette démarche et la raison d'être, ça a été un moyen, et c'est un moyen de se transformer. Et c'est pas arriver à un but.
Pourquoi se transformer ?
Pourquoi se transformer ? Parce que on est dans des entreprises qui sont dans des marchés, dans des univers réglementaires concurrentiels particuliers et qui sont d'une certaine taille et qui ont du mal à se transformer, qui ont du mal, comme toute entreprise, à aller accéder à de nouveaux marchés, à aller à répondre à des nouveaux besoins sociaux. Moi, je vous donne un exemple. On est une mutuelle, donc pour le grand public, c'est une complémentaire santé, même si on fait beaucoup plus. Et sur la dynamique environnementale, on n'avait pas de réponse. Jusqu'à présent, on n'avait pas de réponse. On se demandait même si ça nous concernait. Alors forcément, sur Veolia, c'est très clair. Nous, c'était pas clair. Et c'est justement en travaillant sur notre utilité sociale dans la société d'aujourd'hui, dans ce qu'on voulait se projeter demain, qu'on a commencé à travailler sur ces sujets-là et à s'imposer des actions pour répondre aux objectifs environnementaux. Donc pour moi, c'est pas une espèce de voilà, le petit rubis, le petit bijou en plus qu'on met au-dessus, qu'on met sur sa tête, quoi. C'est vraiment une démarche continue, parce que je pense que la crise Covid a accéléré les choses sur un certain nombre de prises en compte, mais
C'était déjà là avant,
et on sait tous qu'il y a eu un certain nombre d'échecs de à la fois les politiques de RSE comme elles se faisaient avant, quand même, et puis parce que la logique juste de cotation, de référentiel que tout le monde applique et tort, ça aussi produit des échecs. Donc ce que je trouve intéressant aussi, j'en terminerai là sur ce modèle d'entreprise à mission, c'est que c'est l'entreprise elle-même qui se fixe son propre cadre de référence. Elle peut pas aller dire après « Ah oui, mais non, la norme, etc., c'est pas concurrentiel ». C'est nous qui nous fixons nos engagements et nos preuves opposables. Ça, c'est ce qui rend, je trouve, la démarche très forte.
Arthur, vous avez donc révélé votre raison d'être chez Veolia. Qu'est-ce que ça a apporté en interne aux collaborateurs ?
Alors, je pense qu'effectivement, quand on parle de raison d'être, on peut se dire qu'on a ce texte. Mais j'abonde dans le fait que, en vrai, c'est une histoire de transformation. Une histoire de transformation pour l'entreprise et puis bien au-delà. Et Quand on a apporté ce texte de la raison d'être, c'était...
Puisque c'est un texte à la base.
C'est un texte, d'ailleurs c'est tout un texte, qui ne se résume pas tellement dans une petite phrase, même si on se rend compte peut-être qu'on en aura besoin et qu'on va peut-être évoluer, et là, de toute façon c'est un projet qui est nécessairement vivant. Mais c'était tout un texte pour aller décrire l'ensemble de l'utilité qu'on voulait apporter. Et quand on en parle à des collaborateurs, on dit, ça y est, Veolia va révéler sa raison d'être, tout le monde attend justement la petite phrase qui va... raconter parfaitement l'engagement qu'on a et la raison de pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins. Quand on les expose à ce long texte, on se rendait compte, ça provoquait pas beaucoup d'émotions. Et on a trouvé une petite astuce qui était de dire, on vous demande pas de signer le texte en bas à droite. Écoutez ce texte, lisez ce texte. Est-ce qu'il y a un mot dans ce texte qui pour vous résonne, qui pour vous fait sens, qui pour vous fait votre raison d'être chez Veolia? Et ça, c'est la clé d'entrée. Et je pense que ça, c'est une illustration très importante du fait que la raison d'être et toute cette démarche, c'est une histoire de transformation, c'est une histoire de conviction. Comment est-ce qu'on va embarquer petit à petit la conviction de l'ensemble des parties prenantes, commencer par l'interne, enfin je sais pas si ça a commencé, et à partir de là, on va pouvoir faire bouger les choses. Si c'est quelque chose qu'on pose comme un slogan, la cerise sur le gâteau, là évidemment c'est complètement contre-productif, mais si c'est quelque chose qu'on pense quelque part et qu'on impose comme une contrainte, en pensant apporter une réponse radicale à une situation très problématique, là aussi je pense qu'on n'avance pas.
Et juste, ces parties prenantes, justement, est-ce qu'elles étaient demandeuses d'une raison d'être avant que vous l'avez révéliée, ou pas du tout?
Alors, je pense que les parties prenantes, elles sont demandeuses de à quel point est-ce qu'on est en train de transformer les choses. Donc, ça passe par un texte, très bien, c'est un point de départ. Ensuite, comment est-ce que sur la base de ce texte, on arrive à piloter opérationnellement, stratégiquement ce qu'on fait? C'est pour ça que nous, on a créé derrière cette performance plurielle, 5 dimensions, économique et financière, mais pas seulement, environnementale, sociale,
sociétale. Pour vos collaborateurs.
Pour l'entreprise, qu'il y a 18 indicateurs qui sont associés à ces 5 dimensions, c'est audité, c'est publié, c'est présenté en assemblée générale, c'est déployé ensuite dans tout le groupe, et ça devient vraiment l'outil de pilotage, la boussole à partir de laquelle on fait des choix. Là, ça commence à devenir...
C'est un travail énorme.
C'est un travail énorme, et surtout c'est un travail de long cours. Ça commence à devenir concret, l'outil est posé sur la table, comment est-ce qu'ensuite il devient vraiment opérationnel?
Comment on le met en place, en fait?
Comment on le met en place?
Conceptuel, comment on passe en réel?
Il faut commencer, par exemple... Alors déjà, il faut en parler beaucoup pour que les gens comprennent de quoi on parle, sans jamais simplifier, parce que c'est pas une histoire de simple, la raison d'être. Mais comment est-ce que ça rentre dans les process? Comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, chez Veolia, les managers ont leur rémunération variable qui est connectée à cette performance plurielle, pas uniquement économique et financière? Comment est-ce que dans des comités d'engagement, pour obtenir de l'argent pour lancer des projets, on demande la démonstration de cette performance plurielle.
Cette mise en cohérence.
Et ça, encore une fois, c'est pas de la philanthropie. C'est pas pour être gentil et avoir la petite cerise sur le gâteau à la fin. Ben, c'est parce que sinon, on sait que ça va pas marcher.
Qu'est-ce qui va pas marcher?
L'objectif, peut-être, enfin, le résultat final pour l'entreprise, du profit à la fin et de sa rentabilité. Si on a des offres et des solutions, en tout cas, c'est pas la clé d'entrée. Ça ne peut être que la prospérité de l'entreprise pour l'ensemble de ses parties prenantes. Si au départ, elle se dit pas, OK, il faut que j'ai une rentabilité, mais il faut aussi que j'ai un impact social, environnemental, et que je traite tout ça avec le même niveau d'importance, en chemin, elle ne va rencontrer que des blocages. Et à la fin, personne n'aura plus rien.
Mais pourquoi l'afficher? Parce qu'une raison d'être, ça se vit. Pourquoi ce besoin de l'afficher publiquement?
Alors, le besoin, il est d'apporter de la clarté et de poser un cadre dans lequel on va pouvoir s'embarquer tous ensemble.
Parce qu'il y a une notion de fierté, j'imagine. Dans ce que vous décrivez là, ce que je sens, c'est quand vous faites ce travail assez exigeant et hyper transversal, c'est une capacité à mobiliser des équipes, à donner un sens, et donc quelque chose d'important. Aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en grande difficulté du point de vue des ressources humaines, des recrutements. Donc c'est aussi une manière d'attirer, peut-être de garder, c'est ma question, hein. Et donc, d'une pierre deux coups, finalement, vous jouez aussi sur la performance de l'entreprise.
Complètement. Évidemment, ça crée de la fierté, ça crée aussi de l'attractivité. Après, c'est vrai qu'une entreprise comme Veolia, dans les mots publicitaires, hein, qui se propose de ressourcer le monde, assez naturellement, on amène du sens. Donc, oui, bien sûr, ça crée cette fierté, et le fait de le poser, de le dire à l'extérieur, de s'engager, ça donne cette crédibilité qui nourrit la fierté. Mais peut-être le point le plus intéressant, c'est que, à nouveau, ça crée de la conviction. Et du coup, l'interne, les managers, jusque sur le terrain, y croient, et ensuite sont en attente de, OK, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on dit. maintenant jusqu'où on va.
Un aller-retour avec
le. Et ça aussi, ça fait partie de la dynamique et ça crée une accélération sur la transformation d'entreprise.
Est-ce que juste vous pouvez résumer votre raison d'être en quelques mots?
Alors, c'était ce qu'on se proposait de pas faire du tout.
Alors, la question qui était, j'allais enchaîner avec une question pour Antoine. Est-ce que c'est possible pour une entreprise de changer de raison d'être?
À partir du moment où elle a d'ores et déjà été établie, c'est complexe.
Parce que
c'est bien pour ça qu'on prend du temps à la construire ou à la révéler. Deux réponses. Un, parce qu'elle se révèle souvent des discussions de l'ensemble des parties prenantes des collaborateurs. Elle est engageante. Derrière, elle est censée aussi être une boussole sur le long terme. Si on commence à se dire que tous les ans,
on change,
trois ans, on change, elle perd son effet d'entraînement qui était en train d'évoquer.
C'est vraiment un engagement, un mariage qu'on ne peut
exactement, rompre. Parce que si on a une boussole, elle indique une direction, et puis derrière, c'est une boussole à la fois collective, mais aussi individuelle. Si j'ai cette boussole, alors moi, en tant qu'individu, ça peut aussi me permettre de gagner en responsabilité, en esprit d'initiative. Je peux me dire, je vais aller dans telle direction, je vais pas forcément demander la permission, mais comme c'est aligné avec la boussole, alors, et donc ça crée aussi cet effet d'entraînement et d'accélération.
C'est un projet de long cours, c'est pas un acquis statutaire.
Non, et en tout cas, et aussi, ça n'est qu'un début, parce qu'ensuite, ça impose une direction. Je voudrais revenir sur un des éléments qu'évoquait Arthur Hébergère, qui me semble important, c'est quand tu disais, Arthur, utile donc prospère. C'est essentiel pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on en revient à Milton Friedman, l'esprit initial du capitalisme, on n'est pas en train de parler entre bisounours. Hein. C'est à un moment, le capitalisme a cette capacité à dépasser ses propres contradictions. On est juste en train d'assister à un changement d'état du capitalisme. Le capitalisme version 1 se disait il faut qu'on cantonne les entreprises à la production du profit. Voilà. J'ajoute quand même en petite note éditoriale, ce qui est intéressant, c'est quand on suit la note de Friedman, on constate que c'est aussi pour laisser la place à l'État pour se préoccuper d'intérêt général, ce qui ouvre un autre débat. Et deuxième point, c'est une fois qu'on a compris les challenges ou les défis qu'on est en train d'affronter, alors, vous demandez tout à l'heure la position d'Antoine Frérot au début. Certes, il a peut-être été considéré comme que se passe-t-il par rapport à la doxa. Mais, y compris d'un point de vue d'entreprise, c'est intelligent. Pourquoi ? Parce que le fait de se positionner, ça a toujours été comme ça, comme pionnier sur un sujet donné. L'anticipation, c'est quelque chose qui est essentiel. On commence à comprendre et à anticiper que les parties prenantes, dont les collaborateurs, mais dont aussi les clients, dont aussi la planète, qui est une partie prenante en tant que telle, vont commencer à nous demander des comptes sur d'autres sujets. L'anticipation de cette demande permet évidemment de prendre des positions pionnières sur la suite des opérations. La suite des opérations, c'est les 3 ans qui nous restent du GIEC, c'est les 3 ans, puis 6 ans, puis 9 ans à venir. C'est extrêmement important de comprendre cette chose-là.
Aussi, c'est que pour le dire cash, il y a plus simple, si on veut faire juste du greenwashing ou du social washing, il vaut mieux pas aller vers la raison d'être, parce que c'est quand même un paquebot compliqué à monter, à lancer et à diffuser. Juste pour creuser un peu du côté de Veolia, parce que vous avez quand même beaucoup de métiers, de corps de métiers différents, beaucoup de collaborateurs. Moi, franchement, l'idée que je me fais quand j'entends raison d'être des entreprises, entreprises à impact, etc., je me dis, bon là, aujourd'hui on est à Paris, je suis pas dans ma région, est-ce que on n'est pas une petite bulle qui se parle à elle-même entre métiers uniquement très intellectuels ou de bureau ou de service, plutôt à Paris? Est-ce qu'à Veolia, vous avez été en capacité de faire partager cette raison d'être, ce sens, cette vision? Eh bien, oui, dans les bureaux parisiens, on n'en doute pas, mais aussi avec les équipes de terrain, les mains dans le cambouis.
Alors, avec beaucoup d'humilité, on est en chemin, clairement.
Mais c'est intégré, c'est quelque chose que...
C'est l'intention première dès le départ.
D'accord.
Le problème est complexe, on ne veut pas le simplifier, parce qu'on pense que ce n'est pas un problème simple. Les mots qu'on utilise pour en parler sont des mots assez hauts pour le moment. Comment est-ce qu'on arrive à les descendre sur le terrain? Et puis après, on s'est dit, le budget, ce n'est pas que ce soit un texte, c'est que ça s'applique concrètement. Comment est-ce qu'on est capable, au siège, de penser quelque chose qui va pouvoir s'appliquer dans 50 pays, un très grand nombre de métiers différents?
Parce que du coup, c'est international. Parce que c'est vrai qu'on l'a passé, mais c'est vrai que Veolia est un groupe international.
Veolia, 220
000 personnes. Donc, ce qui parle là de la raison d'être française,
pour le coup. Non, de la raison d'être du groupe.
Ça se diffuse.
Ah oui, ok. Non, mais c'est vraiment...
Voilà, c'est la raison d'être du groupe.
Okay.
Et 220 000 personnes, trois grands métiers, mais...
Mais justement, ça va être compliqué de révéler cette raison d'être dans chaque pays. J'imagine que dans certains pays, on est moins réceptif à l'environnement que dans d'autres.
Alors, et Antoine parlait tout à l'heure de crise d'adolescence. Je pense que il y a un vrai sujet autour de la maturité. Donc l'intention, l'approche, la démarche, moi j'ai vraiment le sentiment que tout le monde la comprend et tout le monde y adhère. Elle peut pas s'appliquer pareil de la même manière. Mais se dire que il faut traiter avec le même degré d'importance l'impact économique, mais environnemental, mais aussi social dans chacune de nos actions, finalement sur un marché très mature, sur un marché pas du tout mature, ça s'applique différemment. Mais ça s'applique. On peut se le raconter avec des mots très intellectuels, on peut le percevoir avec des actions très concrètes sur le terrain.
Oui, c'est ça, là où j'avais une autre question, vous le dites, intellectualiser la chose, voilà. Est-ce qu'on se perd pas un peu dans tout ça? Parce que vous l'avez dit, c'est long, c'est vaste, il y a un dossier comme ça, c'est fastidieux. Et pourtant, Arthur le disait tout à l'heure, la situation est alarmante avec le rapport du GIEC. Est-ce qu'on se perd pas un peu dans tout ça? Est-ce qu'on n'en oublie pas l'essentiel? Alors oui, il y a plusieurs volets cette responsabilité, hein, le volet bien-être des collaborateurs pour la société, mais le plus urgent, c'est quand même la planète. Et est-ce qu'on se perd pas? Est-ce qu'on n'en oublie pas l'essentiel? C'est notre planète et c'est l'environnement.
Alors nous, notre conviction, c'est que justement, il faut surtout pas opposer ces notions, et ce n'est que en les traitant avec le même degré d'importance qu'on arrivera à passer. Pour atteindre des enjeux environnementaux, si on tient pas compte des impacts sociaux, des décisions qui pourraient être prises, si on n'est pas capable d'amener à nos clients des réponses innovantes et opérationnelles qui satisfont aussi les actionnaires et qui font que les collaborateurs se sentent fiers, engagés, en sécurité, en train de faire évoluer leur compétences, finalement, on crée des oppositions et on n'avance pas.
Donc ce parcours est obligatoire au final pour...
Nécessaire. Cette idée de se dire, c'est cet équilibre qu'il faut aller chercher entre ces différentes dimensions, c'est ça la voie de passage la plus efficace et la plus rapide pour résoudre les problèmes qui sont éminemment urgents auxquels on est confronté aujourd'hui. C'est en tout cas la conviction qu'on a, c'est le moyen le plus efficace et le plus puissant.
Bérangère, vous validez, c'est pareil chez Harmony Mutuelle?
Bon, on est une entreprise française avec moins de collaborateurs, mais pour nous, comment on fait, c'est toujours cette limite du pacte aux actes et que ça soit vraiment quelque chose qui soit vécu dans l'entreprise et qui soit complètement internalisé, c'est continuer à débattre. C'est continuer à converser, c'est continuer à dialoguer. Enfin, la délibération au sein de l'entreprise, elle doit continuer tout le temps sur ces sujets-là. Et l'un des intérêts, je trouve, de ce statut, parce que vous avez beaucoup parlé de raison d'être et de verbe, etc., mais c'est aussi un statut, c'est-à-dire que ça engage la gouvernance, qu'elle soit actionnariale ou nous, c'est pas actionnarial, mais voilà, il y a des responsables, etc. Donc c'est extrêmement engageant. Enfin, les dirigeants reportent sur cette dimension-là. On est évalué par des organismes indépendants, etc. On peut décemment pas faire du greenwashing avec ça, quoi. C'est quand même une contrainte assez forte. Donc pour nous, il faut continuer à aller remettre sur l'établi le travail de cette triple performance. Toi, il y a un peu plus de dimension peut-être chez Veolia, mais nous, c'est la performance sociale, économique et environnementale. Et ça, ça demande des équilibres à revoir tout le temps et des discussions à avoir, tantôt avec des partenaires sociaux, tantôt avec des collaborateurs, tantôt avec nos délégués qui sont nos représentants. C'est dans ce dialogue que ça se construit.
Est-ce que ça a renforcé le fait de devenir une entreprise à mission? Est-ce que ça a renforcé certains volets? Vous parlez par exemple des collaborateurs, le recrutement, est-ce que ça l'a renforcé?
Alors on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc sauf si vraiment les gens comprennent rien du tout, voilà, ils ont pas de notion un peu de ça. Ils savent qu'ils vont trouver une entreprise peut-être un peu particulière qui est plus sur du temps long parce que on n'a pas d'investissement. Néanmoins, on n'est pas lucratif, mais enfin faut qu'on vive, donc il faut aussi qu'on gagne de l'argent. C'est un argument en plus parce qu'en plus on a une raison d'être qui est assez large, qui est assez ouverte. et qui imprime vraiment notre action sur la société, hein, agir sur tous les facteurs qui améliorent la santé des personnes et celle de la société en mobilisant la force des collectifs, c'est assez inspirationnel quand même. Et donc oui, c'est un atout dans le recrutement et ça nous permet de mettre en valeur notre identité singulière au-delà d'un statut ou d'une raison sociale. Vraiment, notre identité, c'est celle d'être une entreprise de la pleine santé, d'être une entreprise des territoires. Voilà, et on le voit à certains. Enfin, je sais que moi, j'ai eu une collaboratrice qui est arrivée dans mon équipe, qui venait du monde de l'ingénierie financière et des risques, et qui est venue travailler avec moi au nouveau modèle parce qu'elle trouvait que vraiment travailler sur cette dimension de la mission, c'est hyper motivant, quoi. Voilà.
Elle a motivé.
Donc, je trouve que c'est un bon signe. Exactement. Et puis, voilà, c'est pas les seuls. Enfin, on voit bien un gros Paritech, les étudiants qui. Voilà,
bien sûr.
Alors ça, c'est quelque chose que vous vivez concrètement aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des difficultés de recrutement pour un certain nombre d'entreprises. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans l'exigence des candidats, parce que les candidats, alors les talents que l'on peut recruter maintenant ont des exigences pour un certain nombre de postes. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Donc, est-ce que vous pouvez utiliser la raison d'être comme atout en tant que tel, hein, sur le statut, mais surtout sur le contenu que vous y avez mis? Ce sont des arguments que vous pouvez utiliser de temps à autre pour les recrutements ou pour d'autres moments de la vie de l'entreprise?
Moi, je pense que c'est... Alors, je suis pas au recrutement, mais en tout cas, moi, je vois bien que c'est un sujet d'intérêt, vraiment.
Mais chez tout le monde ou uniquement c'est chez les nouvelles générations, les plus jeunes?
Non, vraiment. Enfin, pour avoir fait plein de discussions et continuer à en faire, Antoine me regarde, il en a participé à certaines, mais vraiment, il y a tous les... Moi, j'ai découvert des gens qui étaient d'abord beaucoup plus calés que certains, on va dire, spécialistes sur les questions de pleine santé, sur les questions environnementales. Dans les réunions que j'anime tous les deux mois maintenant, les rendez-vous de l'UMM qui sont un peu la radio libre d'Harmonie Mutuelle avec les collaborateurs, et ben je vois des gens de partout, de la compta, des centres d'appel de toutes les régions. Il y a deux régions qui ont créé des référents UMM. Je savais même pas ce que c'était. C'est eux qui ont dit mais il faut qu'il y ait des référents très près des territoires pour s'en occuper. Donc moi je vois ces signaux-là, le fait que oui ça intéresse, que les gens sont motivés pour travailler à justement que notre raison d'être, que notre statut devienne une réalité et pousse notre transformation encore plus. Quoi.
Arthur, vous faites oui de la tête. Je vous vois acquiescer.
Mais je pense même que, évidemment, tout le monde, les jeunes générations de façon évidente, mais je suis d'accord beaucoup plus largement, est en quête de sens et est en quête d'impact, de sentiment d'utilité. Et j'irais même, ça va encore plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, ça vient toucher les notions même d'employabilité, pour prendre des mots plus RH, être capable de prendre en compte l'ensemble de ces dimensions et de les porter dans quel que soit son métier. Bah, c'est la clé pour bien faire son métier demain et pour se dire, OK, là, je sens que je suis en train d'avancer sur une voie qui a de l'avenir. Donc, c'est ce que tout le monde cherche. Donc, ça va même...
Tout le monde, même, parce que vous, chez Veolia, il y a énormément de métiers, il y a des métiers différents. Quand vous dites tout le monde, c'est vraiment les cadres, les non-cadres, dans toutes les parties de la France. Est-ce que tout le monde se sent vraiment concerné par la raison d'être de Veolia, par exemple?
Alors, en tout cas, la tendance est nette cette mobilisation et sur cette envie et sur cette exigence même, finalement, c'est presque plus dans ce sens-là. La question n'est plus tellement est-ce qu'on arrive à concerner les gens, la question est est-ce qu'on arrive à répondre à leur exigence qui est déjà installée.
Mais pour rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, la question en discutant, c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui, on n'est même pas sur un risque dépréciatif majeur pour une entreprise qui n'entamerait pas, qui véhicule de par ses activités, en plus comme Veolia ou Harmonie d'ailleurs, qui véhicule, j'allais dire naturellement, ces valeurs sur la question de la santé, du social, sur la question de l'environnement de votre côté. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépréciation majeure à ne pas entamer ces démarches finalement? Vous avez bien fait, mais si vous ne l'aviez pas fait, je pense que ça aurait dû être obligatoire aujourd'hui avec du retard et des difficultés peut-être, non? Rien que dans la réponse au marché public, pour être clair, par exemple, pour ce qui concerne Veolia, ou pour, comme adhérent de la Mutualité française ou de l'ESS, par exemple, pour Harmonie.
Clairement, nos clients se posent les mêmes questions. Et nos clients sont dans cette même démarche de se dire, bah, eux aussi, ils ont leur partie prenante. Eux aussi, ils sont dans cette compréhension et du coup, dans cette conviction que c'est en les servant toutes de manière équilibrée qu'ils vont réussir à trouver leur voie de passage. Et du coup, quand nous, on arrive pour collaborer avec eux, bah, ils ont besoin qu'on les aide à aller dans ce sens-là. Donc là aussi, on est dans une, la réponse à une attente qui existe, même si elle est différente. On parlait des différents degrés de maturité, mais
ça arrive de plus en plus.
Exactement.
De plus en plus. Moi, j'ai une question aussi, Antoine. Parce que donc la loi Parc, c'est 2019, hein, c'est bien ça. Donc elle vient après un certain nombre de lois sur la RSE, etc., etc. Mais je me pose une question un peu de profane. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à une sorte de millefeuille là aussi de la responsabilité sociale des entreprises? On disait, il y a le statut ESS. Il y a le statut impact, il y a la RSE en tant que telle, il y a la raison d'être. Est-ce que tout ça finalement ne manque pas un petit peu de lisibilité ou bah, il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde et que chacun trouve sa place?
Crise d'adolescence, hein.
Oui, c'est, on reste
c'est,
là-dedans.
C'est assez dur quand vous dites ça, je trouve, parce que ça voudrait dire qu'avant, bah, on était un peu ignorant.
Je pense qu'on était enfantin dans notre vision de la manière dont on doit fonctionner dans le monde. Je pense que ça va à la fois sur des critères de la manière dont on s'organise collectivement, mais de la manière dont, à titre individuel, on agit et on est en cohérence avec le monde dans lequel on s'inscrit. Et je pense qu'effectivement, on est en train d'apprendre tous, autant que nous sommes, à toute vitesse, sur des meilleurs modes de fonctionnement. Ensuite, oui, certes, c'est sans doute un peu lisible. C'est pour ça qu'au début, et merci de l'avoir fait, on a essayé de poser un petit peu une sorte de glossaire des différents mots qui sont couramment utilisés. On voit quand même deux, trois choses. Un, c'est des mots qui en fait se complètent les uns les autres. On essaye d'avancer dans une direction en partant de la raison d'être, du dépassement effectivement du pur profit, donc la raison d'être, donc l'élargissement, et ensuite comment est-ce qu'on s'organise. Premier élément. Deuxième élément, moi je crois beaucoup et on l'a abondamment évoqué au cours de cette émission, à la mise en mouvement. Le fait que ce soit encore effectivement un tout petit peu peut-être illisible, mais fait que chacun se dit ok, comment est-ce que je peux faire au mieux, comment est-ce qu'on avance. Et il y a ces interdépendances justement entre les différentes parties prenantes qui fait que tout le monde se dit je suis client, je suis consommateur, je suis jeune recrue, je suis, j'essaie d'avancer dans cette direction. Et on est grand et adulte aussi quand même, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire moi dans quelle direction j'ai envie d'y aller, et là il y a toute une palette, une boîte à outils de choses à utiliser en se disant je vais dans telle ou telle direction. Et enfin, et c'est un élément important qui a été un tout petit peu cité, je sais pas si on pourra ouvrir aujourd'hui tout ce volet-là, mais c'est la question derrière de la normalisation de ce qui est en train de se produire. On n'y est pas encore. Et à juste titre, Bérangère disait tout à l'heure, on crée nos propres normes au sein des entreprises. C'est déjà une très bonne chose. C'est là où on en est. Les entreprises créent leur propre système de normes en se disant, avant c'était le profit, maintenant c'est plus, c'est quoi, comment est-ce que je suis, la performance plurielle, indicateur, y compris extra-financier. Hyper intéressant. Ce qui va se produire derrière, c'est qu'il va mécaniquement y avoir une jonction avec l'intérêt général, avec l'État qui a impulsé sur la loi Pacte en France, mais typiquement à l'échelle européenne, et c'est un sujet qui sera passionnant, de c'est quoi les nouvelles normes qu'on doit respecter. Il y a une taxonomie en cours de définition à l'échelle européenne et qui va vraisemblablement rassembler un peu
tout
le monde.
On se perd un petit peu, il y a tellement de labels, mais que ce soit dans les entreprises, dans l'immobilier, dans les placements financiers, on s'y perd un peu en tant que, bah, que Français, consommateur, que collaborateur, une entreprise propose tel label, une autre tel label, voilà. Donc c'est vrai que ce serait bien d'avoir de normaliser tout ça. On va peut-être terminer avec une question de Paul concernant les territoires.
Oui, absolument. On parlait de la lisibilité. Là, on peut aussi parler un peu des moyens du cadre ou de l'accompagnement. Vous le disiez, un cadre européen qui est en train de se mettre en place. Donc, qu'est-ce que les pouvoirs publics, au niveau européen, au niveau national ou au niveau territorial, est-ce que les pouvoirs publics peuvent soutenir d'une manière ou d'une autre, eh bien, ces dynamiques, ces entreprises, d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous avez des demandes, des attentes? On a des législatives qui sont en train de se préparer, c'est notamment le moment. Donc, n'hésitez pas, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut pousser pour vous permettre de mieux travailler, d'être peut-être plus incité encore, plus soutenu dans vos démarches? Antoine, Arthur, Bérangère, question ouverte, mouillez-vous.
Moi, je peux commencer. Hein. moi, je pense que la question est très intéressante parce que ce qui fait un peu défaut aujourd'hui sur Radio Territoria, souvent, c'est le lien entre ce qui se passe à Paris et la manière dont c'est le champ d'applicabilité ou d'opérationnalité sur les territoires. Ce que je constate en bossant aussi avec des directions générales d'administration centrale, notamment, enfin des directions d'administration centrale, c'est que on voit que il y a de nouveaux rôles qui commencent à émerger au sein de l'État. L'État était régulateur, je produis de la loi, je produis de la norme, et devient éventuellement visionnaire, s'interroge sur le côté d'État stratège, s'interroge sur... Et en fait, tout ce qui se cache derrière cette chose-là, c'est plutôt que de dire voilà comment est-ce que les choses doivent se passer, ça pourrait être de dire voilà, après en avoir discuté avec un certain nombre de parties prenantes, le cadre dans lequel tout ça pourrait s'opérer. Et je pense que les attentes des grandes organisations, des opérateurs et des services de l'État sont aussi de cet ordre-là. D'accord. C'est de comprendre, merci d'avoir impulsé ce mouvement. Je pense que la loi Pacte a été essentielle pour justement créer, et c'est un cadre justement d'opération,
la dynamique,
mais pour la suite, et notamment au niveau des territoires, plein d'expériences sont menées sur comment est-ce que ça peut aller un cran plus loin. On discutait avec Engie l'autre jour des questions associées à la qualité de l'air sur le territoire Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a plein de tests qui sont en train d'être faits. L'État peut effectivement accompagner, à la fois en disant on vous laisse la possibilité de le faire, et je termine là-dessus, en disant je vous mets aussi en contact avec des personnes qui, au sein du territoire, sont susceptibles de vous aider à avancer dans cette direction.
De la mise en lien, des normes peut-être plus cadrées, je pense peut-être à des clauses dans les marchés publics éventuellement, des avantages fiscaux.
Ah, alors, c'est bien, c'est là, on peut faire notre liste de coûts.
Que vous voulez
Non, mais on pourrait rebondir
rapidement avant la fin.
Le cadre réglementaire, évidemment, c'est le champ d'application qui fait que tout devient possible. Mais je rebondirais plutôt sur l'idée de faire les choses ensemble. On est en train d'initier chez Veolia, et c'est peut-être le troisième pilier chez nous, finalement, de cette démarche de raison d'être, c'est comment est-ce qu'on arrive à avancer avec nos parties prenantes. Et on a une démarche un peu pilote qui est de réunir toutes nos parties prenantes, dans chacune des dimensions. Donc on a une cinquantaine de personnes qui sont autour de la table, des clients, des actionnaires, des gens qui viennent des ONG, des fournisseurs, des collaborateurs aussi, et qui essaient de résoudre, de répondre à des questions. Quelle gouvernance il faudrait mettre en place pour avancer plus loin? Comment faire avancer? Et on voit que le fait de réussir à créer ce dialogue tous ensemble, et pas juste je parle à tout le monde, je fais que tout le monde parle ensemble, là ça ouvre des voies qui, à mon avis, sont les voies de ce que tu disais, Antoine, on va rentrer dans l'âge adulte et du coup répondre à la question du comment, et c'est bien ça la question clé maintenant.
Je voudrais ajouter un mot, parce que je vais être un peu plus direct. Nous, on a signé le manifeste Impact,
ouais.
Et on pense que, franchement, que des entreprises, qu'elles soient dans le lucratif ou non lucratif, quel que soit leur statut, etc., qui font vraiment le pari avec le plus d'intégrité possible, de faire de la performance économique, sociale, environnementale, de maintenir de l'emploi, notamment dans les régions. Nous, Harmonie Mutuelle, tous nos emplois sont en région. À Paris, on a un tout petit siège. On a fait ce choix-là. On essaye de pas fermer des agences alors que nos agences se dépeuplent, etc. Mais on essaye de trouver des formules pour rester présent dans les territoires. Bah, ça vaut un traitement particulier. Je sais pas lequel, puis c'est pas l'heure des revendications. Tout comme, par exemple, nous, on aimerait que les innovations du côté social participent au crédit impôt recherche, que la RDI en matière de sociale soit aussi un petit peu partagée aux entreprises. L'État fait beaucoup de choses avec les contrats impact, avec tous les appels à manifestation d'intérêt. Voilà, je pense qu'il faut peut-être un peu donner encore un peu plus d'élan, voilà, à ces entreprises qui veulent vraiment être contributrices.
Et ben, ce sera l'occasion d'en reparler dans une autre émission.
Avec
émission
plaisir.
Où vous reviendrez. Merci beaucoup, merci Paul Meyer, merci. Pour cette émission. Un grand merci également à nos invités Bérangère Priour et Arthur Thou. Merci à notre chroniqueur Antoine Brachet, merci d'être venu sur le plateau. Merci également à nos réalisateurs David Payan et Baptiste Plouchard. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'Hebdo Territoria.
Le Grand Hebdo, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.